Un nouveau bonjour à tous et à toutes. Bonjour Philippe, bonjour Anne. Bonjour les garçons. Lorsqu'Abdel m'a demandé il y a 2 semaines de préparer un message pour le jour de Pâques, vraiment dans les minutes qui ont suivi, il y a un passage qui m'est venu et qui va être en fait le fil du partage d'aujourd'hui. Et le passage se trouve dans 2 Corinthiens 5. Donc je vous lis d'abord quel va être le verset central. Et ensuite, je vous en lis le contexte. Donc, le verset central, c'est la deuxième partie du verset 16 de 2 Corinthiens 5. Et donc, je vous le lis. « Si nous avons connu le Messie selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Donc, c'est ça qui va être le fil conducteur et la pensée centrale pour ce matin. Et donc, je vous lis maintenant le contexte. C'est-à-dire les versets 14 à 17. L'amour du Messie nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, je ne sais pas si on comprend ce que Paul vient d'écrire, dont je le relis. « Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc, je reviendrai sur cette pensée. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu le Messie selon la chair, maintenant, donc selon la chair, ça veut dire... pendant son ministère terrestre, lors de son incarnation, avant sa mort et sa résurrection. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, c'est-à-dire depuis sa résurrection. Et on vient de le lire avec Luc 24. Les disciples, il a fallu une ouverture spirituelle pour qu'ils reconnaissent, que les deux pèlerins reconnaissent qu'ils avaient en face Jésus. Je reviendrai là-dessus. Si quelqu'un est en Christ, en le Messie, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Seigneur, on te demande d'accompagner ta parole par ton bon esprit. Seigneur, tout ce que je peux dire avec mon intelligence est vain, comme cela nous a été encore rappelé ce matin avec ces deux pèlerins d'Emmaüs, si ce n'est toi qui ouvres les yeux du cœur. Donc ça, c'est ta grâce. C'est ta prérogative, cela vient de toi et de toi seul. Et donc, on t'en remercie d'avance. Amen. Amen. Alors, on pourrait dire que le message de ce matin est une question de vie et de mort, ou de mort et de vie. Alors, littéralement, évidemment, puisque nous célébrons la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus, mais également pour nous, parce que c'est une chose que de croire que Jésus est mort pour nous, de croire qu'il a porté nos péchés à la croix, mais il est dit dans le passage que je viens de lire que si on ne vit pas pour lui, mais que l'on continue à vivre pour nous, ne soyons pas étonnés que nous n'expérimentions pas ce changement de vie en nous. C'est tout le sens également de l'Épître aux Romains au chapitre 6, « Vivre pour Jésus ». C'est ce qui permet de déployer la vie de l'Esprit en nous et c'est ce qui rend la mort de Jésus efficace en nous. Donc, vous voyez, on peut présenter, comme dans le catholicisme, justement, un Jésus mort en croix, mais il s'agit de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, avec un regard qui est centré sur lui et non plus sur nous. Alors, nous devenons de nouvelles créatures et les choses anciennes sont véritablement passées. Donc, on oublie souvent ça. On oublie que le moteur de la transformation, c'est le regard sur lui. Et vivre pour lui. Et non plus pour nous-mêmes. Donc, comme je l'ai dit, le verset auquel j'ai pensé quand Abdel m'a sollicité pour ce message, c'est « Nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. » Et d'emblée, je me suis dit « Mais on dirait qu'il y a comme une contradiction dans la parole. » Puisque lorsque Paul va parler aux Galates, aux Corinthiens, ou de manière générale quand il annonce le message de l'évangile, il dit en gros, je n'ai voulu savoir parmi vous qu'une seule chose, le Christ et le Christ crucifié. Donc c'est bien le Christ en chair dont on est en train de parler. Dans 1 Corinthiens 1, versets 22 à 24, les Juifs demandent des miracles et les Grecs demandent la sagesse. Mais nous, nous prêchons le Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc là, Paul est bien en train de dépeindre aux Corinthiens un Jésus crucifié sur la croix. Donc bien un Jésus en chair, chair et sang, corps et âme. Donc Jésus dans son humanité. Et il en est de même dans Galates 3, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, donc Galates 3, verset 1. Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui le Jésus, le Messie, a été peint comme crucifié. Alors d'un côté, il dit, Jésus, on ne le connaît plus selon la chair, et de l'autre, il dit, je vous le dépeins dans la chair. Ça fait un peu bizarre. Alors en fait, non, il y a une issue, évidemment, dans cette apparente contradiction. Car si on ne voit que le Jésus en chair à la croix, alors on peut se demander si Dieu n'est pas un Dieu païen, s'il ne prend pas plaisir de manière sadique à la mort d'un humain sur la croix. Or évidemment, Dieu le Père est tout sauf cela. Donc il y a autre chose à voir sur la croix qu'un corps sanguinolent. Il y a autre chose à voir. Et ce qui donne indice de cela, c'est premièrement le centenier. Dans Matthieu 27, il va y avoir un tremblement de terre, la foule est saisie de frayeur, et que dit le centenier? Est-ce que quelqu'un se souvient? Quand il y a ce tremblement, il y a cette frayeur qui saisit la foule, et le centenier romain, qui n'est même pas un croyant, qu'est-ce qu'il dit? Celui était vraiment le Fils de Dieu. Le problème, quand même, avec cette affirmation, c'est qu'elle est ambiguë. Parce qu'il n'était pas croyant, a priori. Donc, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils d'un Dieu, c'est un Fils divin. Est-ce qu'il avait une représentation païenne des dieux romains? C'est ambigu. Mais il y a un autre passage qui ne l'est absolument pas. Et cela a été évoqué également ce matin, c'est le brigand sur la croix. Parce que lui, le brigand sur la croix, va dire dans Luc 23, en parlant à l'autre, celui qui n'arrêtait pas de se rebeller, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?»« Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Jusque-là. Mais c'est là qu'on voit que le brigand ensuite a manifestement vu autre chose qu'un corps ensanglanté sur la croix, puisqu'il va dire, souviens-toi de moi, à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il faut le dire, ça, quand même. Il est lui-même crucifié sur la croix, il est en train d'agonir. Bientôt, on va lui briser les jambes. Mais il dit à celui dont le corps est ensanglanté, souviens-toi de moi quand tu entres dans son règne. Et là, on voit la foi. On voit que ses yeux voient autre chose que ce que toute la foule voyait. Et Jésus lui répond, « En vérité, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Et le brigand l'a cru. Le brigand avait la foi. Donc on voit que la mort de Jésus à la croix, il y a certes la perception des yeux, donc la perception selon la chair. Donc comme il est dit, nous avons connu le Messie selon la chair. Mais Paul dit également, on ne le connaît plus de cette manière, et le brigand déjà à la croix ne le connaissait plus de cette manière-là. Il avait déjà en vue le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui allait l'amener avec lui dans le paradis de Dieu. Waouh, quelle foi! Donc vous voyez les représentations de Jésus que l'on peut avoir, le Jésus qui va me bénir, le Jésus qui va me faire du bien. J'ai accepté Jésus, comme si Dieu, on avait fait grâce à Dieu de l'accepter. Je rappelle, la grâce est dans l'autre sens, c'est Dieu qui nous fait grâce, ça ne vient pas de nous le salut. Donc vous voyez, on est bien loin de cette représentation-là, d'un Jésus encore dans la chair, un espèce de gourou qui est là pour nous faire du bien. Non, c'est le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui nous fait grâce, et qu'il nous fasse grâce de le voir avec les yeux du cœur autrement qu'avec les yeux de la chair. Et évidemment, dans le premier des passages que j'ai lu dans 1 Corinthiens 1, en fait, il y a déjà la clé, puisque certes, Paul prêchait un Messie crucifié, mais Paul dit également, dans cette croix qui est apparemment une faiblesse de Dieu, le Fils de Dieu s'est laissé crucifier par les Romains, livré par les Juifs incrédules et crucifié par les Romains. En fait, il y avait la réelle puissance de Dieu. Donc les yeux de la chair ne voyaient que la faiblesse, les yeux de la foi voyaient la puissance à la croix. Et de la même manière, les yeux de la chair voyaient la folie de Dieu, comment on sauve l'humanité avec un corps ensanglanté sur une croix, mais les yeux de la foi voyaient la réelle sagesse de Dieu. Donc vous voyez, il y a un renversement complet suivant que l'on regarde les choses par la chair, c'est-à-dire la nature humaine, ou on regarde les choses par l'esprit. On a deux visions complètement différentes des choses. Donc quand on parle de la croix, et évidemment sans minimiser dans la chair de Jésus les souffrances qu'il a subies, est-ce qu'on voit autre chose? Je pense que nous sommes invités à voir autre chose. Et par conséquent, si nous l'avons connu selon la chair, c'était le cas des disciples, ou si nous, nous ne le connaissons plus selon la chair, 2000 ans après, comment le connaît-on? Alors quand on pense à la chair, on pense dans la parole à l'opposition entre la chair et l'esprit. Alors que l'on parle de la chair en tant que la nature humaine, donc c'est un terme neutre, dans l'expression « la chair et le sang », c'est simplement pour décrire notre humanité, la chair, le sang, le corps, l'âme est dans le sang. Et en fait, c'est ce que l'on célèbre quand on prend le pain et le vin. C'est exactement ça. Autrement dit, on est en train de célébrer le don de l'humanité de Jésus. Mais Jésus n'est pas que fils de l'homme, il est aussi fils de Dieu. Je reviens juste après sur le dessus. Donc soit la chair en tant que nature humaine, soit la chair en tant que nature pécheresse. Et comment se fait le lien entre les deux? C'est que la chair, qui contient notre âme, chair et sang, notre âme, notre personnalité, c'est ce qui nous distingue les uns des autres. Nous avons chacun une personnalité, nous avons chacun en ce sens quelque chose qui nous distingue des autres. Ça, c'est notre personnalité que Dieu a mis en nous. Donc en araméen, on appelle ça la knouma. La knouma, c'est ce qui distingue l'un de l'autre. C'est ce qui fait que nous sommes différents. Donc on dirait la personnalité, notre caractère, ce que Dieu a mis en nous. Mais également, c'est ce qui nous autonomise. Parce qu'on ne va pas réagir de la même manière l'un et l'autre. Mais vous voyez que si cette chair-là, notre nature humaine, n'est pas soumise à l'Esprit de Dieu, alors elle se prend elle-même pour Dieu. Elle devient, là du coup, charnelle. Là, elle devient en rébellion contre Dieu, à faire sa propre volonté. Et ça revient à ce que j'ai dit au départ. La clé de la vie avec Jésus, par sa mort et sa résurrection, c'est ensuite de vivre pour lui et non pas pour nous. Non pas de manière autonome pour nous-mêmes, mais pour lui. Et si on vit pour nous-mêmes, là c'est la nature charnelle qui a encore le dessus. Si on vit pour lui, notre nature humaine est soumise à son esprit. Donc bien, c'est pour ça qu'il y a le même terme de chair, c'est à la fois ce qui nous distingue, mais non soumis à l'esprit de Dieu, ça devient quelque chose qui est en révolte contre Dieu. Et là on parle de la nature charnelle. Et donc si on met en opposition ou en contraste la chair et l'esprit, c'est sans doute qu'en Jésus, y compris à la croix, nous sommes invités à voir non seulement sa nature humaine, celle qu'il laisse à la croix puis au tombeau, mais surtout sa nature divine. Et ça, c'est la pensée qui m'est venue après le passage de 2 Corinthiens 5. Quand on parle de la mort et de la résurrection, surtout de la mort de Jésus à la croix, on pense à son humanité. Et j'ai immédiatement pensé au contraire à sa divinité. Et je vais vous expliquer pourquoi. La croix a été le lieu d'une tension extraordinaire entre la nature humaine, celle que Jésus a assumée, et sa nature divine dans son obéissance au Père jusqu'au bout. Comme le dit Paul, jusqu'à la mort de la croix, il est resté obéissant. Donc cette nature humaine qui est intrinsèquement faillible. Souvenons-nous du combat de Jésus dans Gethsémané. Comme il est dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça, c'est sa nature humaine qui parle. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, c'est l'esprit qui parle et qui soumet l'âme. Mais à la croix, ce conflit, cette tension plutôt entre l'âme et l'esprit va être porté à son extrême. Parce qu'il va y avoir la souffrance du corps en plus que de la souffrance de l'âme. Alors cette nature divine, elle apparaît déjà dans l'Écriture bien avant la résurrection. Donc je vais penser en particulier au baptême de Jésus, où on va voir à la fois le Père, le Fils et l'Esprit. Donc là, c'est la divinité qui transparaît au niveau apparemment du baptême d'un simple homme, à la fois, c'est-à-dire Jésus. Dans Matthieu 3, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit... » Alors, on vient de citer Jésus. « Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix, celle du Père, qui fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc là, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, y compris visiblement par la colombe qui descend et la voix qui parle lorsque Jésus est baptisé. Et là, normalement, les témoins de ça devaient se dire « Mais il y a plus qu'un simple homme là qui est en train de se faire baptiser. » Mais on le voit également à une autre occasion où Jésus va dévoiler son intimité, va dévoiler sa divinité. C'est au moment de la transfiguration. Et là, à nouveau, en menant Pierre, Jacques et Jean, dans Matthieu 17, Jésus fut transfiguré devant eux, devant ces trois, et son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc on voit que, tout en étant dans la chair, il y avait déjà cette autre dimension divine qui transparaissait au travers de lui, à son baptême, à la transfiguration. Cette nature divine, évidemment, transparaît dans le tombeau, puisque son corps n'a pas connu la corruption. C'est ce qu'il dit dans Actes 2. Pierre va dire « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par eux. » Et en faisant la comparaison avec David, David a connu la corruption, Jésus ne l'a pas connu. Quel corps normal ne connaît pas la corruption en restant 3 jours dans le tombeau? Pensons simplement au corps de Lazare, qui est au quatrième jour, sentait très très fort à cause de la corruption. Le corps de Jésus n'a pas connu la corruption. Donc là aussi, ce n'est pas normal. Et enfin, le dernier passage, mais ça c'est après la résurrection, ça a été mentionné ce matin, c'est évidemment lorsque Jésus apparaît aux pèlerins d'Emmaüs. Et là, il est tellement glorifié que les pèlerins ne le reconnaissent pas. Là-dedans, c'est assez frappant parce que quand il était en chair, la plupart ne voyaient pas sa divinité. Et maintenant que toute sa divinité paraît avec un corps glorifié, ils ne reconnaissent plus celui qu'ils avaient connu en chair. Et il faut que les yeux du cœur s'ouvrent pour qu'ils disent « Mince, mais c'est Jésus, c'est lui !» Et à quelle occasion exactement ils ont reconnu que c'était lui, les deux pèlerins? À la manière dont Jésus brisait le pain et priait. Et là, ils sont dit « C'est le Seigneur !» Et hop, il disparaît. Donc vous voyez, la perception selon la chair, la perception selon l'esprit. On peut ne voir que les choses de la chair, de la nature humaine, ou alors on peut voir les choses qui relèvent de l'esprit. Hein, Paul va faire ce contraste dans 1 Corinthiens 1 et 2, entre la perception psychique et la perception pneumatique, c'est-à-dire la perception selon l'homme naturel et la perception selon l'homme spirituel. L'homme naturel ne perçoit pas les choses qui relèvent de l'esprit. Et donc quand on pense, en tout cas quand je pense à la croix, pour ma part en tout cas, je pense plutôt à cet esprit, cette nature divine qui a traversé l'humanité et qui l'a transformée de l'intérieur en devenant l'un avec nous. Mais c'est la continuité en fait de l'œuvre du Messie, elle est dans son esprit, dans sa divinité. Et cette divinité, elle est marquée par quoi? Elle est marquée par une union indéfectible, insécable, non brisable entre le Père et le Fils. Si le Seigneur a pu nous sauver, c'est à cause de ce lien absolument indestructible entre le Père et le Fils par l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que le corps a été flagellé, le corps a été frappé, l'âme a été humiliée, l'âme a été moquée. Ce lien-là lui a permis de passer la mort et ensuite de revenir à la vie. Ça, c'est important parce que un des aspects de l'œuvre de Jésus à la croix, c'est que tout ce que nous avons à endurer en tant que membre de son corps, il l'a enduré en tant qu'homme. Et non seulement il l'a enduré dans son corps, comme certains encore aujourd'hui, ou dans l'histoire de l'Église, ont fini martyrs, martyrisés dans leur corps, ou à nouveau, comme je l'ai dit, humiliés, frappés, dénigrés, et tout ce que l'on veut. Également l'opposition frontale avec les chefs religieux. Donc Jésus a vécu tout cela. Il a vécu tout cela dans sa chair et a appris par cela l'obéissance, c'est-à-dire la soumission de sa nature humaine à l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important parce que c'est comme cela qu'il nous aide également à passer les épreuves. C'est parce qu'il les a endurées et les a surmontées par l'Esprit qu'il met en nous cet esprit. Si je puis dire de manière humaine, un esprit qui a expérimenté et vaincu dans la chair du Fils, ce que signifie l'opposition, l'adversité, etc. Mais également le deuil. Souvenons-nous que Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Donc toutes ces choses-là, il les a vécues et vaincues, afin que par ce même esprit qu'il met en nous, nous puissions également les surmonter et les vaincre. C'est un des aspects de notre union à Jésus à la croix, c'est qu'il a enduré, son esprit a vaincu et il met ce même esprit en nous. Donc souvent quand je pense à Jésus mort à la croix, je pense à celui qui a souffert et qui nous permet du coup de souffrir, si c'est tel est l'appel du Seigneur. Pour nous rappeler cela, on peut penser à Isaïe 53, donc les versets 4 et 5. Et je demanderai à Abdel de bien les lire avec une voix claire.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Voilà. Dans le passage qui vient d'être lu, on voit précisément cette dualité. Nous pensions qu'il était crucifié pour ses crimes comme un brigand, et ensuite il y a la vision, non. Il est mort à la croix pour porter nos souffrances, il est mort à la croix. Il y a les deux visions qui s'articulent dans le passage que l'on vient de lire d'Ésaïe. Ceux qui voient Jésus mort à la croix de l'extérieur et ceux qui comprennent l'œuvre de Dieu par la croix. Donc comme je l'ai dit, il a vécu nos épreuves, il a vécu nos oppositions, puisque nous sommes membres de son corps et le corps ne vit pas autrement que ce que la tête a vécu. Ce que Jésus a vécu pendant 3 ans et demi, l'Église le vit depuis 2000 ans. La tête et le corps sont un, ce que vit la tête, le corps le vit. Et donc il l'a vécu d'avance pour nous, pour que le corps puisse passer également au travers de ce pèlerinage dans le monde. Alors il y a un point qui m'a interpellé dans ce qui a été lu dans Ésaïe, c'est qu'en est-il de nos maladies? Parce que c'est frappant, parce que certains vont dire que Dieu va nous guérir de toutes les maladies, et que c'est notre droit devant Dieu que d'être guéri. Et d'autres ne font pas grand cas de la capacité qu'aurait Dieu de pouvoir nous guérir. Et je pense que le point d'équilibre, évidemment, entre les deux, parce que je me suis dit très naïvement que si vraiment Dieu nous guérissait de toutes les maladies, en fait, il nous guérirait de la nature corrompue de notre homme extérieur qui se corrompt et se détruit. Alors du coup, je me demande de quoi est-ce qu'on mourrait. Mais inversement, n'oublions pas que Dieu est capable de guérir la maladie. Donc voilà, simplement ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui avons l'initiative de cela. Je vous invite à relire en Corinthiens 12, 13, 14, où il est, à mon sens, clairement dit que c'est l'Esprit qui a l'initiative et nous nous soumettons. Donc Paul a laissé Trophime malade à Milet et dans d'autres cas, il a guéri. Donc ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend de Dieu. Et gardons l'oreille ouverte pour savoir ce qu'il veut pour nous. Mais Jésus lui-même n'a jamais été malade. Quand je lis les évangiles, il n'y a nulle trace du fait que Jésus ait été malade. Et moi je me dis, ben, sans doute parce qu'il devait être l'agneau sans défaut, sans tache, qui devait être offert parfait à la croix. Mais il a guéri la maladie des autres. Donc soit il nous aide et guérit nos maladies, soit il nous aide à les supporter. Dans tous les cas, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. À la croix également, pour remettre encore en avant la dimension spirituelle, c'était un combat non seulement pour soumettre la chair et le sang jusqu'à l'extrême de la mort, mais c'était aussi un combat spirituel contre le serpent. Quand il est dit « il a vaincu et dépouillé les puissances, autorités et dominations à la croix », là, à nouveau, on peut voir humainement la faiblesse du Fils de Dieu à la croix. Et pourtant, là, il s'est joué une victoire absolument phénoménale, qui est la victoire sur Satan lui-même. On se souvient évidemment que Jésus a déjà confronté le serpent au départ de son ministère, avec les trois tentations dans le désert, Matthieu 4 et Luc 4. Mais le serpent, il revient à la fin. Vous savez qu'au départ, il dit « Ah, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. » Ou alors « Jette-toi du haut du temple. » Ou alors « Tiens, prosterne-toi devant moi et je te donne tous les royaumes. » « Si tu es le Fils de Dieu. » Comment est-ce que cette parole est revenue ?« Ah, si tu es le Fils de Dieu. » Vous vous souvenez quand c'est qu'elle est réentendue ? À quelle occasion ? À la croix. Et qu'est-ce qu'il a été dit ? Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le serpent, il était là au départ, et il était là au moment de l'extrême faiblesse humaine. Il était encore là pour dire, ah, si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus est resté sur la croix. Ça, paradoxalement, enfin non, pas paradoxalement, c'est la marque d'obéissance. Il devait aller jusqu'au bout. Voilà, il y aurait d'autres choses que je pourrais développer là. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est ce qu'il dit dans Hébreux 2, 14, il y a également participé afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. On a parlé tout à l'heure de la peur de la mort. On ne jamais oublier que Jésus a vaincu la mort. Et celui qui avait la puissance de la mort, c'est le diable. Il est venu délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans l'esclavage. Ça, c'est un autre aspect également de notre combat contre notre propre chair. Il est venu délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans l'esclavage. Autrement dit, outre le fait de vivre pour Jésus, il y a également la libération de la servitude en méditant sur le fait qu'il est le vivant, qu'il a vaincu la mort. Ça, c'est un aspect important. Donc ça fait vraiment écho à ce qui a été dit tout à l'heure, à propos de la crainte de la mort. Ça, je le fais. Et donc, le Fils de Dieu a donné volontairement son corps et son âme, comme je l'ai dit. C'est la dimension à laquelle on pense. Il a payé le salaire du péché, c'est la mort. Donc il a offert son corps et son âme, sa chair et son sang à la mort. C'est le prix pour notre corruption, pour notre péché. Mais son esprit est resté vivant. C'est même pas qu'il est resté vivant. Jésus est, E-S-T, la vie. Il est la vie. Et cette vie, évidemment, ne pouvait pas s'effacer au moment de la mort, lorsque Jésus rend l'esprit. Je vous rappelle que c'est à la croix qu'il va dire « Je remets mon esprit, Père, entre tes mains ». Donc Jésus est parfaitement serein quand il meurt, il remet son esprit au Père. Et comme on l'a un petit peu évoqué hier soir dans le partage, Non seulement il remet son esprit au Père, mais il descend vivant, lumineux, glorieux, divin, céleste, dans le Sheol, pour faire plusieurs messages. Un message à l'égard des anges qui avaient péché dans Genèse 6, mais également il est venu chercher tous ceux qui dans le Sheol, vous vous souvenez, Luc 16, ce Sheol divisé en deux, avec un profond abîme dans lequel justement étaient les anges enchaînés. Et d'un côté, vous aviez avec Abraham tous ceux qui attendaient la délivrance, qui attendaient que quelqu'un descende vers eux. Et de l'autre côté, vous aviez, comme l'homme riche, vous aviez tous ceux qui étaient perdus. Et Jésus, non seulement vient faire une proclamation au profond des abîmes à l'égard des anges enchaînés. Alors, je ne vais pas développer aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est à cela qu'il a parlé, mais il y a une raison précise, puisque le plan de Dieu a failli capoter à cause de ce qu'ont fait les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles. Ça a failli corrompre entièrement l'humanité et empêcher la venue du Messie. Donc, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais du coup, c'est à cela qu'il a spécifiquement parlé, comme acte d'autorité pour leur signifier leur défaite. Que tous leurs plans, en fait, ont été rendus vains, puisque maintenant, il est descendu glorieux dans le Sheol. Et d'autre part, comme il est dit, il a emporté des hommes avec lui, tous ceux qui étaient avec Abraham, et il a fait des dons aux hommes, les dons de l'Esprit. Donc, vous voyez que la croix, c'est pas simplement un corps qui meurt sur une croix, mais c'est également la continuité de l'Esprit, l'œuvre qui continue dans le Sheol, et Jésus qui ressort du Sheol 3 jours après. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Les Juifs religieux incrédules n'ont pas ôté la vie de Jésus. Les Romains qui ont mis Jésus à la croix, qui ont cloué ses pieds et ses mains, n'ont pas ôté la vie de Jésus. Jésus, il dit, je la donne de moi-même. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'à la croix, il est mort prématurément. Il est mort, en fait, entre guillemets, beaucoup trop tôt. Puisqu'en général, l'agonie durait jusqu'au soir, il fallait briser les jambes des brigands. Quand le soldat est venu devant Jésus, Jésus était déjà mort. Il a donné sa vie. À l'heure, à la minute, si je puis dire, même à la seconde, où il avait décidé que c'était le moment de remettre son esprit au Père, Jésus a été dans cette maîtrise jusqu'au bout, dans l'obéissance au Père. Donc Luc 23, 46, il remet son esprit au Père. Tandis que le corps et le sang, l'âme, le corps et l'âme, la chair et le sang sont laissés dans le tombeau pendant 3 jours. Il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Romains 6, 10. Donc si lui vit pour le Père, à combien plus forte raison devrions-nous vivre également pour Dieu? Et à nouveau, comme je l'ai dit au départ, c'est la condition pour que sa vie puisse nous donner le dessus sur la chair. Des fois, j'entends l'expression « Dieu enlève des choses de nous, enlève telle chose et telle chose ». En fait, Dieu n'enlève pas. Il n'enlève pas notre chair. Notre chair, elle est là jusqu'à la fin. Notre chair corrompue est là jusqu'à la fin. Il n'enlève pas, mais il donne son esprit afin que, marchant par l'esprit, nous puissions avoir la victoire sur la chair. Mais pour marcher par l'esprit, il faut vivre pour Dieu. Il faut vivre pour Jésus. Et il faut avoir par conséquent devant nos yeux ce Jésus, non seulement sanguinolent sur la croix, mais bien plus encore ce Jésus victorieux et glorieux. Ça, c'est la conclusion du message d'aujourd'hui. La conclusion, je l'ai appelée « Pourquoi est-ce important de percevoir la divinité de Jésus ?» y compris au travers de l'œuvre de la croix. Premièrement, parce que c'est à la lumière de sa divinité que nous voyons l'horreur de notre chair. On ne peut pas voir l'un sans voir l'autre. Et ça, je vous l'ai souvent dit. La clé de la repentance, c'est de contempler la gloire et la beauté de Jésus. Et en contraste, on ne peut dire « mais je suis un pécheur ». Et l'œuvre de repentance, c'est ce dépouillement toujours plus profond de notre homme intérieur, de cet homme corrompu, de ce qu'on appelle la chair, le vieil homme, c'est-à-dire Adam. Mais on ne peut le faire que si l'on voit la bonté de Dieu, comme dit Paul dans Romains 2, la bonté de Dieu en Jésus. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour les religieux, c'est-à-dire ceux qui imitent la vie chrétienne mais n'ont jamais rencontré Jésus. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au bout de la repentance et aller au bout de la condamnation de leur propre chair par l'Esprit de Dieu, puisque par définition, un religieux n'a pas rencontré Jésus. Alors que lorsque nous rencontrons Jésus, d'emblée, on rencontre un Jésus qui nous est favorable, on rencontre un Jésus compatissant, et par conséquent, avec lui, on peut se mettre à nu devant lui et voir la profondeur de notre corruption. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Si on n'a pas rencontré Jésus, on ne peut pas marcher dans ce chemin de repentance. Donc effectivement, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui se manifeste d'abord à nous, et nous répondons par la repentance, par l'adoration, mais avec devant nous ce Jésus dans sa divinité. Et par la divinité, j'entends déjà sa gloire. Ça veut dire quoi sa gloire? Donc le mot kavod veut dire ce qui est lourd, ce qui pèse. Mais dans un sens figuré, la gloire est toujours positive. Les quatre chérubins qui portent le trône de Dieu, qui sont donc au plus près de Dieu et qui voient la gloire de Dieu, sont obligés de se couvrir les yeux en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Je crois qu'on ne réalise pas que lorsque nous serons face à Dieu, nous allons être face à un être qui est radicalement différent de nous. Et ce qui va susciter l'admiration, l'adoration, le désir de le voir, de le connaître. On va voir une gloire, une beauté irradiante, lumineuse, quelque chose qui va captiver notre regard. Et c'est un petit peu ce que Jésus a montré, par exemple, lors de la transfiguration. Il a montré un petit peu de ce qu'est la gloire de Dieu. Donc une beauté qui est inexprimable, donc là je parle des attributs de la divinité, une beauté inexprimable, cette gloire, une incorruptibilité, imaginez quelque chose qui est une nature qui est entièrement pure, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas la changer, c'est un bloc absolument inchangeable, et évidemment une nature qui est éternelle. Donc le Fils de Dieu, Jésus, est radicalement différent de nous par sa divinité. Et pourtant, il est devenu si proche de nous par son humanité. Et tellement proche qu'il épouse l'Église. Il l'a fait une avec lui. L'Église devient son corps. L'Église devient le temple de son esprit. L'Église devient part de lui-même. Et c'est comme ça qu'il nous sauve, parce que par nous-mêmes, nous n'avons pas de gloire, nous ne sommes pas incorruptibles et nous ne sommes pas éternels. Si, nous sommes éternels par l'Esprit. Quelque chose qui est éternel en nous, c'est l'Esprit. Que l'on soit perdu ou que l'on soit sauvé. Mais nous ne sommes pas incorruptibles en nous-mêmes et nous ne sommes pas glorieux en nous-mêmes. Nous n'avons pas de vie en nous-mêmes. Nous n'avons pas de lumière en nous-mêmes. Voilà. Mais en nous attachant à lui, il devient ce roc sur lequel il bâtit l'Église qui va pouvoir passer l'éternité dans la fournaise qui est la sainteté de Dieu, à cause de lui et grâce à lui. Donc en dehors de lui, c'est absolument impossible. Donc comme je l'ai déjà dit, je crois que nous avons le choix entre les flammes et les flammes. Les flammes, le feu dévorant qui est la sainteté de Dieu, et dans laquelle on entre en Jésus, comme les trois compagnons de Daniel étaient entrés dans la fournaise allumée par Nebuchadnezzar, et voilà que le quatrième apparaît au milieu d'eux, et les rend insensibles aux flammes, ou alors ce sont les flammes de la géhenne pour les perdus. Mais dans les deux cas, c'est flamme ou flamme. Donc, premièrement, donc, cette divinité de Jésus, c'est ce qui nous permet donc la repentance. Si on ne voit pas la bonté et l'amour de Jésus, on ne peut pas en fait se repentir. Alors, tout simplement, on ne pourrait pas porter le poids de ce qu'est la vision de notre corruption. Et non seulement cela, mais on se bâtirait en fait un vêtement de propre justice précisément pour ne pas l'avoir. Et ça, c'est le pharisien. Il soigne son extérieur, mais l'intérieur, il n'y touche pas, il le cache. Mais également voir sa divinité, parce que son esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous amène à expérimenter ce même combat contre notre nature charnelle que Jésus a mené contre la chair, qui n'était pas charnelle. Le combat de Jésus, si je puis dire, c'est que sa chair, sa nature humaine, ne devienne jamais charnelle, c'est-à-dire indépendante du Père. Vous voyez le point ? Il devait soumettre sa nature humaine pour qu'elle reste constamment sous la domination de l'Esprit, sans jamais s'autonomiser, c'est-à-dire devenir charnelle. Et inversement pour nous, l'œuvre de Jésus à la croix et l'union avec lui, c'est pour que notre nature charnelle soit crucifiée avec lui, de telle manière à ce qu'elle arrive dans cet état, comme il est dit, comme le dit Paul, dans un état d'impuissance. La chair est toujours là, mais elle doit devenir impuissante, incapacitante par l'Esprit. Et donc, on ne peut pas le faire par nous-mêmes, on ne peut pas le faire par des réformes, de la discipline, des œuvres, on ne peut absolument rien faire de cette chair, à part la crucifier, mais ça c'est un langage pieux, on dit toujours, oui, oui, crucifier la chair, mais ça veut dire quoi ? Crucifier la chair, ça veut dire être préoccupé par quelque chose d'autre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si on ne vit pas pour Jésus, c'est que l'on vit pour nous-mêmes. Si l'on vit pour nous-mêmes, notre chair est puissante. Donc la clé de la délivrance par rapport à la chair, ce n'est pas l'éradication de la chair, ça ce sont les perfectionnistes qui prêchent ça. Et inversement, d'autres, l'antithèse, vont dire « Oui, de toute façon, la chair, on est pécheur, on pêche jusqu'à la fin. » Et voilà, rien n'est entrepris, on continue à vivre pour soi-même. Non, la troisième voie, la voie d'échappatoire, c'est en fait, la chair devient impuissante dès lors que l'on vit pour quelqu'un d'autre. C'est ça la clé. Chez la chair, je ne peux pas la transformer, vous ne pouvez pas la transformer. Elle est irréformable. Et ça prend du temps avant de réaliser à quel point notre chair est irréformable. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais lorsqu'on rencontre Jésus, la première chose que l'on fait, on se métamorphose en religieux. Et puis on commence à... On lit la Bible, on fait la prière, et puis des fois il y a des enseignements assez tordus qu'on nous enseigne, et donc on a l'impression que, voilà, ah, ça y est, j'ai compris, on va pouvoir faire quelque chose. Et il faut du temps avant de réaliser à quel point nous sommes impuissants face à notre propre chair. À tel point que dans Romains 7, Paul est obligé de dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Et pourtant, il a lutté. Hein. Le bien qu'il voulait faire, il ne le faisait pas. Le mal qu'il voulait éviter, il le faisait quand même. Il était pris dans un dilemme dont il n'arrive pas à sortir. Et il a fallu du temps avant qu'il dise, qui va me délivrer ? Donc ça, c'est le deuxième point. L'esprit a expérimenté, entre guillemets, en Jésus, se maintient de la chair et du sang de Jésus, son humanité, dans la soumission à l'Esprit, et nous devons le rejoindre par là, évidemment à partir d'une nature déchue, cette fois-ci, mais avec la chair, notre nature déchue, qui est mise de côté, qui est rendue impuissante et incapacitante, mais il n'y a qu'une seule voie pour cela, c'est par l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, Galates 5. Et pour marcher par l'Esprit, il faut avoir les regards sur Jésus. Si on n'a pas les regards sur lui et si on n'est pas déterminé à vivre pour lui, l'esprit ne peut pas opérer en nous et la chair continue à vivre. Et si la chair continue à vivre, comme évidemment on est dans une église, on ne peut pas faire n'importe quoi, elle devient religieuse. C'est le vernis religieux que l'on revêt. Et enfin, le dernier point, et je termine avec cela. Donc toujours ce Jésus divin au travers de la croix. C'est par ce Jésus divin que nous nous adressons, ou c'est à ce Jésus divin que nous nous adressons dans la prière et que nous percevons avec les yeux du cœur. Ça, c'est un point qui est important, alors sans verser dans une forme de mysticisme un peu particulier. C'est le Jésus que l'on voit quand même dans la prière, c'est le Jésus ressuscité. Et là, s'accomplit pleinement ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 5. Effectivement, ce n'est plus le Jésus selon la chair que l'on voit, mais le Jésus ressuscité. Ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. J'étais avant, petit témoignage, très gêné par les films et les séries représentant Jésus. Jésus humain. Ça m'a toujours gêné de voir ce que je me dis, oui, mais de toute façon, c'est un homme faillible qui est censé jouer le rôle de Jésus. Voilà. Jusqu'à ce que je comprenne, mais attends, le Jésus que je vois dans la prière, que je perçois dans la prière, c'est le Jésus ressuscité. C'est un Jésus tellement glorieux que je ne vois pas les traits de son visage. Je vois Jésus dans sa gloire. Et à partir de là, ça a permis de mettre la distance par rapport à toutes ces représentations humaines et de les mettre de côté. Donc c'est le Jésus divin que nous voyons dans la prière. Donc comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire que quand on était christocentré, centré sur Jésus, on avait tendance à mettre en avant son humanité. Et je lui dis, mais c'est très bizarre, parce que l'expérience, il me semble, de la vie chrétienne, c'est à l'inverse. Quand on est radicalement centré sur Jésus, toute l'Écriture nous parle de Jésus, donc c'est difficile de ne pas être centré sur Jésus, puisqu'en dehors de Jésus, je n'ai aucune représentation de qui est Dieu. Jésus est l'image visible du Père invisible. Je ne peux pas me représenter Dieu en dehors de la manière, de l'image qu'il a donnée de lui-même en Jésus. Mais pas le Jésus humain, pas le Jésus selon la chair, le Jésus ressuscité, le Jésus glorieux, le Jésus divin. Alors quand j'ai entendu ça dire, voilà, quand on est centré sur Jésus, on a tendance à le réduire à son humanité, ça m'a fait bizarre. Je me dis, mais non, c'est l'inverse. C'est sa divinité qui est exaltée, c'est pas son humanité. Voilà, donc voilà trois points concernant la divinité de Jésus. Cette bonté qui nous permet de nous repentir, cet esprit qui a expérimenté le combat dans la chair de Jésus et qui nous permet de l'expérimenter aussi. Et enfin, cette adoration de Jésus en tant que Jésus divin. N'oublions pas que c'est la contemplation du Fils de Dieu, 2 Corinthiens 3, qui nous métamorphose à son image. Donc c'est le Jésus divin qui nous métamorphose à son image. Donc voilà. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Simplement pour dire voilà, qu'au-delà de l'humanité que Jésus a offerte à la croix, son corps et son sang, son âme, sa chair, voilà, pour ma part, ce que j'ai voulu essayer de tracer, c'est le fil de sa divinité depuis. Alors, j'ai commencé avec le baptême, mais j'aurais pu commencer avec sa naissance. Naissance miraculeuse, puisque c'est l'Esprit qui vient dans le sein d'une Vierge pour enfanter le Fils. Voilà, mais on voit le fil de la divinité, et au-delà du voile de la chair, au-delà du corps ensanglanté, n'oublions pas en fait ce qui se cachait derrière. C'est cette victoire extraordinaire que Jésus a remportée à la croix contre les puissances, autorités et dominations. Et pourtant, les gens qui étaient autour de la croix ne voyaient pas des anges voler de la droite à gauche et ne voyaient pas la panique du diable. Et pourtant, c'était exactement ça. Le monde spirituel, le monde ténébreux a paniqué, espérant que jusqu'au dernier moment, Jésus cède, s'autonomise et se sauve lui-même. En fait, il ne l'a pas fait. C'est comme ça qu'il a remporté la victoire. Amen.
Amen.